Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français sur la SBS avec Bertrand Tungandamé. Au sommaire de cette édition, on va brosser le portrait d'un personnage. Et bien, le personnage du jour, il s'agit de l'opposant russe Alexei Navalny. On rendra également hommage à Raymond Poulidor, un cycliste de l'âge d'or du cyclisme français. Et côté littérature, on va parler du livre « La fille du train ». Mais avant de développer tout cela, l'actualité de ce dimanche 30 août. Un nouveau cas de COVID-19 au Victoria et toujours pas de nouvelles sur l'allègement des mesures sanitaires. Le Norvégien Alexander Kristoff remporte la première étape du Tour de France 2020. Le Belge Philippe Gilbert, lui, est contraint à l'abandon pour cause de blessure. Une manifestation monstre à Maurice pour protester contre la gestion d'une catastrophe écologique. Le Victoria a enregistré 114 nouveaux cas de COVID-19 et 11 décès, ce qui porte le nombre de décès à 611 pour l'ensemble de l'Australie. Les cas recensés aujourd'hui marquent une hausse par rapport aux 94 cas enregistrés hier. Ce dimanche, le Victoria termine la quatrième semaine sur les 6 semaines de mesures de confinement strictes, dites de stade 4 dans la région de Melbourne. Et là, le reste du Victoria est frappé quant à lui de mesures de restriction de stade 3. Ces mesures devraient durer jusqu'au 13 septembre prochain. Malgré les résultats en nette diminution, le premier du Victoria ne veut toujours pas se prononcer sur ce qu'il fera après le 13 septembre.
What we can be certain of right now, these case numbers are too high for us to open up, and they are still too high for us to put forward a definitive plan. Now, there will be a plan. It will come soon, but it will be one that we can be confident of. Not something that potentially gets us a few weeks of people being happier, but then ultimately has to be revised because it didn't mean much when you first announced it.
Belal Sadallah Khazal, qui avait été condamné à 12 ans de prison pour terrorisme, sera relâché ce dimanche. Cet ancien nettoyeur de cabine de la compagnie aérienne Qantas avait été condamné pour avoir publié en ligne un manuel d'actes de terrorisme en arabe. Ce manuel comprenait notamment des techniques d'assassinat et comprenait aussi une liste des cibles potentielles de ces assassinats, y compris des personnages de notoriété publique dans de nombreux pays, dont l'Australie. Belal Sadallah Khazal n'a jamais nié les faits, arguant qu'il n'avait pas pour objectif d'inciter au terrorisme. Les détails des conditions de sa libération n'ont pas été rendus publics, mais on signale que malgré sa libération, il fera toujours l'objet de mesures de surveillance pour protéger la population. Et après 2 mois de retard, la 107e édition du Tour de France a finalement démarré avec la victoire à la première étape du coureur norvégien Alexander Kristoff, un coureur qui s'est imposé sous la pluie le lieu de départ et d'arrivée du Tour de France édition 2020, donc la première étape. Le coureur belge Philippe Gilbert, qui a été impliqué dans une vilaine chute, a dû abandonner le Tour de France hier. Pourtant, malgré sa chute, il avait réussi à franchir la ligne d'arrivée à 11 minutes du vainqueur. Écoutons-le décrire les conditions de sa blessure.
J'ai passé une radio et ensuite une IRM, et c'est suite à l'IRM qu'on a pu voir que il y avait un trait de fracture. Alors on ne savait pas exactement si c'était le trait de fracture d'il y a 2 ans, cicatrisation, ou si c'était une nouvelle fracture. Donc on a fait une échographie et là on a vu un épanchement de sang assez important. Et là il n'y avait plus de doute possible. Je veux dire, quand il y a du sang en quantité comme ça veut dire que c'est l'os qui est touché. Et voilà, ça confirmait la fracture. Donc maintenant, je me retrouve de nouveau avec une fracture sur le genou gauche, comme il y a 2 ans. Si on peut parler de bonnes nouvelles, c'est qu'il n'y a pas de déplacement et que ça va être plus rapide. Donc finalement, à choisir, parce qu'on hésitait au début si ce n'était pas ligamentaire ou les tendons. Et je pense qu'un os guérit toujours plus vite qu'un ligament, par exemple. Donc finalement, c'est peut-être la meilleure des issues possibles.
Il faut souligner que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Tour de France ne s'était jamais disputé après le mois de juillet. Un report cette année dû à la pandémie de coronavirus. Et hier, des centaines de manifestants se sont rassemblés place de la Nation à Paris pour protester contre le port du masque obligatoire. Une manifestation qui s'est déroulée sur fond d'une recrudescence du nombre des cas positifs, car hier on a enregistré 5453 nouveaux cas positifs au coronavirus, une baisse par rapport aux 7379 enregistrés vendredi, 6111 jeudi et 5429 mercredi, ce qui constituait de nouveaux record depuis que les tests se déroulent à grande échelle. Mais face à ces chiffres, Frédéric Adnet, professeur de médecine à l'hôpital Avicenne de Bobigny à Paris, souligne qu'il faut se préparer à une longue bataille contre le virus.
C'est la fameuse courbe en cloche, on atteint un pic et ensuite vous avez une décroissance qui obéit aussi à la même loi mathématique, c'est-à-dire qu'elle décroît aussi rapidement que la croissance. Le problème, c'est d'arriver à ce fameux pic épidémique, donc au sommet de la courbe, pour après avoir une décroissance. Et toute la problématique que l'on a actuellement, c'est justement ce pic épidémique qu'on pense qu'il sera moins important que la première vague. Pourquoi ? Ben parce que le virus, ok, il circule, donc il progresse sur une nature exponentielle, mais il progresse dans une population qui est masquée, qui respecte la distanciation, avec du tracing et avec une certaine immunité collective. Ces 4 phénomènes ralentissent la propagation du virus et vont faire que le pic épidémique sera beaucoup plus bas que la première vague, mais au prix malheureusement d'une propagation du virus qui sera plus longue dans le temps, donc il faut se préparer malheureusement à vivre avec le virus pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin ou qu'on ait une immunité collective qui permette d'arrêter l'épidémie.
Et c'était le professeur Adnet de l'hôpital Avicenne de Bobigny à Paris au micro de Laurence Théo pour RFI. Et on reste en France avec la rentrée hier des partis politiques, surtout les partis de droite où on observait une rentrée en ordre dispersé au relan de campagne présidentielle. Le sénateur et chef des files des Républicains, Bruno Retailleau, a rassemblé ses soutiens près de Nantes, alors que Valérie Pécresse, en région Île-de-France, faisait de même en région parisienne, avec de chaque côté des ambitions présidentielles. Reportage Anne Soitement pour RFI.
C'est chez elle, dans la région qu'elle dirige et qu'elle aimerait continuer à présider après les régionales de l'année prochaine, que Valérie Pécresse a fait sa rentrée. Devant plus d'un millier de personnes, membres de son parti libre, Valérie Pécresse a attaqué le gouvernement sur la sécurité, avec des mots qui ont résonné avec ceux d'un autre présidentiable de droite, Xavier Bertrand, une manière de lancer le match de 2022.
Je ressens le devoir de parler plus fort encore. Je ressens comme jamais l'impérieuse nécessité de construire avec vous un avenir qui n'est pas écrit d'avance. Le temps est peut-être venu de faire entendre la voix d'une femme libre.
Symbole d'une droite qui s'agite à un an et demi de la présidentielle, Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR, fait lui aussi sa rentrée aujourd'hui, mais à quelques centaines de kilomètres d'ici, à La Baule. Bruno Retailleau qui devrait le répéter, s'il y a une primaire à droite pour désigner le candidat en 2022, il sera candidat. Bruno Retailleau et Valérie Pécresse qui se retrouveront le week-end prochain pour la rentrée officielle du parti avec un autre présidentiable de droite, François Baroin.
Et à Maurice, hier, des milliers de Mauriciens sont descendus dans les rues de Port-Louis pour dénoncer la gestion de la marée noire par le gouvernement. Une marée noire qui avait été provoquée par le vraquier japonais MV Wakashio qui s'était échoué au large des côtes mauriciennes, provoquant une pollution sans précédent. Vêtus de noir et arborant des drapeaux mauriciens, les manifestants ont appelé le Premier ministre Pravind Jugnauth à la démission. Des partis politiques mauriciens se sont liés au mouvement de protestation Et parmi les manifestants, Ajay Ganens, président du mouvement militant mauricien, qui réclame lui aussi la démission du Premier ministre Pravind Jugnauth. Écoutons-le au micro d'Alexandra Branjon pour RFI.
C'est un ras-de-bol de la population. Vous voyez là, par exemple, le cas de Ouakchougn, comment ils ont mal géré le naufrage et comment là, maintenant, vous avez le dauphin qui sont en train de mourir dans la mer. Le gouvernement n'a pas agi pendant 12 jours. Il n'y a même pas l'hélicoptère qui est sorti. Et hier, le Premier ministre, dans le Parlement, vous dit qu'il y a des hélicoptères qui ne sortent pas le soir, qui ne sortent que pendant le jour. Il met tout le blâme sur le temps. La mer était mauvaise. Donc, c'est l'inaction du gouvernement que le peuple qui sont venus dire non, assez, c'est assez. La population n'a pas confiance dans ce gouvernement.
Et il faut souligner qu'on estime que les manifestations d'hier ont rassemblé entre 50 et 75 000 personnes à Port-Louis, ce qui en fait le plus grand rassemblement anti-gouvernemental de Maurice depuis plus de 50 ans. Et le bras de fer qui dure depuis 2 mois entre Apple et Epic Games s'est durci d'un cran. Après avoir éjecté de sa boutique en ligne le célèbre jeu de Fortnite, Apple s'en prend désormais à une ressource cruciale de revenus pour Epic Games, son moteur de jeu. Reportage Patricia Lecomte pour RFI.
Désormais, Epic ne peut plus concevoir d'applications pour les utilisateurs d'iPhone, de smartphones et d'autres appareils de la marque Apple. La firme à la pomme prive Epic de l'accès à ses outils de développement, compromettant l'Unreal Engine, le moteur de jeux vidéo créé par Epic Games. Conséquence pour les utilisateurs, ils ne peuvent plus télécharger ou retélécharger une application créée par Epic ou faire des mises à jour sur les plateformes iOS et macOS, les systèmes d'exploitation d'Apple. Les deux groupes s'affrontent devant la justice depuis plusieurs semaines. Le litige repose sur le montant de la commission de 30% que prélève Apple à chaque achat via sa boutique en ligne Apple Store. Epic Games, qui a porté plainte contre Apple pour abus de position dominante, a tenté de contourner le système de paiement afin de percevoir directement les règlements des joueurs en lien avec ses applications. Apple avait alors menacé de fermer le compte d'Epic Games. La menace est aujourd'hui mise à exécution, mais elle n'est pas sans conséquences pour tous les autres clients de l'éditeur hébergés par Apple. Ils se retrouvent privés de l'accès à un programme nécessaire pour faire fonctionner leurs applications. Face à l'avertissement d'Apple, plusieurs développeurs ont pris les devants et abandonné Epic Games au profit d'autres fournisseurs de moteurs de jeu.
Et les services météorologiques du Victoria avertissent la population contre des vents violents qui vont frapper une partie de l'État. Les services de secours demandent aux gens d'être vigilants et de se tenir à l'écart des zones de danger potentiels. De s'éloigner des inondations, des débris, des arbres abattus et autres dégâts sur les routes. Des vents violents frôlant des vitesses de 90 à 100 km/h frapperont les Grampians, les régions alpines et la côte sud du sud-ouest du Victoria, avant de poursuivre vers le Gippsland. Et un mot de sport, à 6h30 ce soir, coup d'envoi de la grande finale du championnat de football australien, donc de la A-League, un match qui opposera le Melbourne City au Sydney FC, donc qui cherche à défendre son titre. Coup d'envoi donc ce soir à 6h30 à Sydney. Et un coup d'œil météo pour ce dimanche, Perth 22 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 19, Hobart 20, Canberra 18, Wollongong 23, Sydney 25, Newcastle 24, Brisbane 22, Cairns 26 et Darwin 34. Faisant un rappel des titres de l'actualité de ce dimanche, 114 nouveaux cas de COVID-19 recensés au Victoria et toujours pas de nouvelles sur l'allègement éventuel des mesures de restriction sanitaire. Et le Norvégien Alexander Kristoff remporte la première étape du Tour de France 2020, alors que le Belge Philippe Gilbert est contraint à l'abandon pour cause de blessures. Et une manifestation monstre à Maurice pour protester contre la gestion d'une catastrophe écologique.
Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Et à présent le magazine des sports de Jean-Noël Ducasse.
Journal des sports de ce dimanche, la première étape du Tour de France à Nice hier. Une course de 156 km remportée par Alexander Kristoff, le Norvégien, mais dans des conditions météo pas idéales. On l'écoute sur EBU, European Broadcasting Union.
Alexander, now it's on your shoulders. What does it mean to have the yellow jersey of the Tour de France on your shoulders?
I think it's going to mean a lot to me in my career, of course. It will be a highlight for always. I don't have so many years left, so for sure when I finally retire in a few years' time, I will look back at this moment with a lot of joy. And it's a proud moment for me. And it will be a really nice day. I guess it will be all of me for one day. I will probably lose it tomorrow unless something very strange happens. So I will try to enjoy it as much as possible.
It was in the back of your mind this morning when you took off?
It was in the back of my mind, but I knew it was going to be very difficult because there is teams here with a lot of riders for the sprint, and I am actually alone. We have the whole team for the GC contenders, and I actually asked just to come to Tour because I know I need it for also doing classics later for getting the real top shape for the classics. But of course, the Tour de France is the biggest race in the world, and you want to perform. So I really tried to find the form getting into this race, and I haven't showed it before this race, but today I was the fastest, so it doesn't matter what I did before.
Thibaut Pinot, le Français, un des favoris, a chuté à 3 km de l'arrivée. Écoutez Marc Madio, son manager.
Bah, Thibaut, il est énervé, agacé de la chute. Ils ont été sous tension toute la journée à partir du moment où la pluie a fait son apparition. Donc chuter à 3 km de l'arrivée quand c'est fini, c'est rageant, mais on savait que ça allait être glissant. Et y compris sur le plat, y compris tout près de l'arrivée. Donc ça fait partie de la vie de la course. Il va, on verra demain. Mais je pense pas qu'il y ait trop de gros dégâts. Enfin, c'est jamais agréable de toucher le sol quand on est coureur cycliste. S'il avait fait beau, ça aurait été un superbe spectacle. Mais avec la pluie, on sait que dans le sud, comme il pleut très rarement, 1% du temps, dès qu'il pleut, l'huile remonte et c'est une patinoire, quel que soit le parcours proposé. Hein. Donc c'est comme ça, c'est pas de chance.
Et maintenant, le reportage de cette première étape depuis Nice, Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale.
Entre la pluie et le nuage coronavirus, ce tour n'est pas né sous les meilleurs auspices, mais au moins les coureurs sont partis et pour les voir au départ, huis clos oblige, il fallait ruser, repérer les bus d'équipe comme Stéphane et son fils.
Dries De Venens, le Belge de la Quick-Step. Et lui, c'est Bob Jungels, c'est luxembourgeois.
Alors bien sûr, avec les barrières et les masques, difficile de reconnaître son favori, mais finalement, ça n'est pas si mal.
Comme il y a moins de monde, eh bien, pour une fois, la possibilité en fait, de les voir d'un peu plus près. Donc on n'est pas au podium, on n'est pas invité. Mais on a la possibilité de les voir passer tout près et ça reste exceptionnel. On vient de voir Thibaut Pinot à 1 mètre, on a quasiment fait un selfie. Quoi. Ce qu'on n'aurait jamais pu faire en temps normal.
Oh là là, c'est magnifique.
C'est magnifique pour Diane, étudiante originaire de Libreville. Cette supportrice d'Egan Bernal était habituée au Tour du Gabon, la Tropicale à Missabongo. Mais la grande boucle, c'est encore autre chose.
J'ai tant rêvé ça. Voilà, quand on est au plus proche d'eux, on les a vus s'échauffer un petit peu. Mais par contre, il faut que je chope Bernaudot ou Vauclair ou Jalabert. J'ai des photos là, je vais montrer, ils vont se rappeler. À la Tropicale, bien sûr.
Et si ça n'a pas marché pour Diane, deuxième chance aujourd'hui avec un nouveau départ de sa ville d'adoption.
Ce dimanche, la deuxième étape de Nice au pays pour 186 km avant de revenir sur Nice et tout ça sur la télé SBS en direct. Et n'oubliez pas le podcast de SBS Cycling Central de notre collègue Christophe Mallet tous les jours de ce Tour de France 2020. Football, la finale de la Ligue des champions féminines ce dimanche soir. Lyon jouera contre Wolfsburg. On écoute la réaction de Jean-Michel Aulas, président de l'OL.
Très heureux surtout parce que c'est vrai que ce sera la 9e finale. C'était très serré, on le savait. Bon, en plus, on avait beaucoup, beaucoup d'absentes, 4 joueuses de très haut niveau. Mais on a su, je crois, construire la victoire avec un très bon match, une très bonne première mi-temps contre une très bonne équipe, c'est vrai. On a aujourd'hui vraiment une grande satisfaction puisque on a eu la chance d'aller en quart de finale de la Youth League, demi-finale chez les garçons. Et puis, on va jouer cette finale. contre un club qu'on connaît évidemment très bien, Wolfsburg, puisque ce sera, je crois, la sixième rencontre au cours des dernières saisons. Donc voilà, il faudra essayer d'être très fort contre Wolfsburg, qui est une très très bonne équipe.
La Ligue 1 en France, et on parle du tournoi des messieurs, deuxième journée hier, Rennes a battu Montpellier 2-1, Nice s'est imposé contre Strasbourg 2-0. La Community Shield en Angleterre pour lancer la saison et Arsenal gagne pour la 16e fois et cette fois contre Liverpool au tir au but 5-4 après un match nul, un but partout. L'équipe de France, et on parle toujours des messieurs sur le terrain, pour préparer les matchs de la Ligue des Nations contre la Suède et la Croatie en septembre prochain. Marie-Amélie Motte, RFI.
Le 5 septembre en Suède pour la première journée de la Ligue des Nations. À cette occasion, le sélectionneur a communiqué hier sa liste de 23 joueurs. Le milieu turinois Adrien Rabiot, absent du groupe depuis plus de 2 ans, en fait partie. Tout comme Eduardo Camavinga, le jeune Rennais va remplacer Paul Pogba, contrôlé positif au coronavirus. À 17 ans, Camavinga sera le benjamin de cette équipe de France. Ses performances sous les ordres de Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, et le fils de Guy Stéphan, l'adjoint de Deschamps, ont largement convaincu. On écoute le sélectionneur des Bleus hier au micro d'Antoine Grenier.
Je connais bien son entraîneur et mon adjoint Guy le connaît encore mieux, donc évidemment là on aura les infos, il n'y aura pas de filtre, mais c'est pas pour ça qu'il est là d'ailleurs. Ça arrive peut-être tôt, mais tôt ou tard il y serait venu. La situation a fait que oui, le forfait de Paul Pogba, il y a d'autres joueurs qui manquent au milieu de terrain, donc il sera avec nous, mais est-ce qu'il est capable de faire déjà ce qu'il a fait la saison dernière en termes de personnalité quand il est sur le terrain, ça se ressent, et l'équipe de Rennes, quand il est là ou qu'il n'est pas là, c'est pas la même non plus, malgré son jeune âge, donc il a une influence et il est capable de faire des choses à son jeune âge. Voilà, il faudra être vigilant dans l'évolution, mais il a un potentiel qui l'amènera à faire partie intégrante de cette équipe tôt ou tard. Ça vient peut-être tôt, peut-être très tôt, bon, c'est la situation, je le répète, mais c'est un plaisir de pouvoir l'avoir avec nous sur ce rassemblement.
Tennis, le tournoi de Cincinnati, la finale, remportée par le Serbe Novak Djokovic contre le Canadien Miloš Raonic en 3 manches. Et chez les dames, Naomi Osaka, la japonaise, championne, après le forfait de Victoria Azarenka, la biélorusse, pour cause de blessure à la cuisse. Et puis le Grand Prix de Belgique de Formule 1, c'est ce dimanche avec Lewis Hamilton en pole position, suivi de Valtteri Bottas, son coéquipier qui partira second. L'Australien Danny Ricciardo partira à la 4e place. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
Avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Poulidor revient encore une nouvelle fois. À chaque fois, Poulidor plie mais ne cède pas.
Je n'ai rien fait pour acquérir cette popularité. Elle est venue, elle est née, je ne sais quoi, peut-être que de mon nom qui sonne très bien.
Vraisemblablement deuxième, à mon avis 9 minutes 59, c'est-à-dire qu'il serait battu d'une seconde à peu près devant son public, deuxième Poulidor.
Des fois je me pose la question, est-ce que je serais là aujourd'hui devant votre micro si j'avais gagné 2-3 Tours de France? C'est pas sûr.
L'image d'Éternel Second, c'est une image, il a joué de ça lui-même. Parce que Poulidor, en fait, apparaît dans le monde, dans l'histoire du cyclisme, au moment des premiers directs télévisés, où les champions cyclistes deviennent aussi des personnages.
Je m'appelle Raymond Poulidor, j'ai été 8 fois sur le podium, je n'ai jamais porté le maillot jaune.
C'est-à-dire, ça devient un jeu de rôle. Et il s'oppose à Anquetil, alors qu'en vérité, ils sont tous les deux d'extraction terrienne. Ils sont tous les deux fils de paysans. Anquetil est fils d'un fraisiériste et lui, il est fils de fermier de la Creuse. Ils sont d'une origine très modeste. Mais Anquetil va très vite incarner une sorte de capitalisme roulant. Poulidor, lui, incarne le français de la France d'en bas, le français moyen, qui trahit pas la terre, qui trahit pas ses origines, qui est en plus accablé par une malchance incroyable. Enfin, il crève toujours au mauvais moment. Et on peut, à un moment donné, attribuer ses défaites à la malchance.
Je suis un fils de paysan. J'ai commencé à faire du vélo sur le vélo de maman. On allait aux fêtes, au village, à vélo. Et là, je me suis découvert des capacités d'être doué pour ce sport.
Quand Poulidor arrive dans le cyclisme, c'est un gagnant. C'est un vainqueur en puissance, un puncheur de côte. Il gagne Milan-San Remo, il est champion de France, il gagne la Flèche Wallonne, la Vuelta. C'est puis dans le Dauphiné en 63, il s'échappe seul sur la route de Grenoble. Et là, il a un coup de fringale, une défaillance spectaculaire. Il perd 18 minutes en 9 km. Et son directeur sportif, Antonin Magne, doit d'ailleurs le gifler pour le faire sortir de sa torpeur. Et de là, et c'est lui qui en fera l'aveu, de là, il est devenu un autre personnage. Il s'est refusé après de prendre toute initiative, d'être un attaquant. Et il a fait sa carrière, on va dire, collé dans les roues d'Anquetil et plus tard dans la roue d'Eddy Merckx. Il a terminé souvent deuxième, mais sans jamais finir dans un état second. Poulidor a capitalisé sur cette image d'éternel second pour devenir ce personnage que la France va plaindre, à la fois admirer et plaindre, car c'est quand même un grand coureur. C'est un champion qui, sur le plan athlétique, figure parmi peut-être les 10-15 meilleurs coureurs de toute l'histoire. Sur le fond, c'était lui le capitaliste, c'était pas Anquetil.
Ma relation avec Anquetil, bon, lorsque nous étions adversaires, je détestais pas Anquetil, mais c'était réciproque. Et puis après, lorsque Anquetil a arrêté sa carrière, il est devenu un de mes plus grands supporters. Et puis il y a eu cette maladie, bien sûr. Quelques jours avant sa mort, je lui ai téléphoné quoi, pour prendre de ses nouvelles. Il m'a dit, tu vas être encore deuxième, c'est terrible. Et il m'a dit ça pratiquement avec le sourire.
Poulidor, coucou.
Coucou. Non,
je me souviens, au Bol d'Or des Monédières, en 56, j'avais battu Louison Bobet, j'avais fait quatrième de l'épreuve. Bobet, il a dit, mais à Géminiani, mais quel est ce petit con qui nous emmerde. Bobet avait été surtout surpris par cette popularité, déjà qui était naissante. On m'avait baptisé au pays la pouliche. Et Bobet avait été surpris, mais il a dit, mais c'est pas possible, il est plus applaudi que moi. Puisque Dieu sait si Bobet était populaire.
Il a fallu le réveil de Raymond Poulidor entre Briançon et Aix-les-Bains pour réchauffer un peu l'enthousiasme de tous ceux qui attendaient du Tour de France un morceau de bravoure quotidien.
C'est lui qui m'a donné l'amour du Tour de France et je pense que c'est lui qui a donné l'amour du Tour de France à beaucoup, beaucoup de gens. Sa longévité dans sa carrière professionnelle, ses 8 podiums, aucun coureur du Tour n'est jamais monté aussi souvent sur le podium. Sa bonhomie, son humour, ce que j'ai découvert ensuite quand j'étais journaliste, il avait toujours une histoire drôle, Raymond. Il avait toujours une anecdote. Et puis le respect de ses racines, le fait qu'il l'ait toujours su jusqu'à la fin de sa vie d'où il venait et qu'il ne l'ait jamais renié. Tout ça a fait qu'il était toujours là. En juillet dernier, sur le bord des routes du Tour de France, vous aviez comme chaque année des pancartes « Allez Poupou, vas-y Poupou ».
C'est le grand moment de ce Tour 64. Toute la France a vibré ce jour-là.
L'étape héroïque du Puy-de-Dôme. Les grimpeurs sont à leur affaire une fois de plus. Ils ne font plus le poids face au grand duel Anquetil-Poulidor. Un grand moment. Poulidor attaque, Anquetil répond. Une page d'histoire s'imprime.
Et cette date, évidemment, est restée dans mon esprit. Un 12 juillet, aux alentours de 16h et quelques, cette ascension du Puy-de-Dôme.
Mais Poulidor n'a pas attaqué assez tôt. Et quand il s'en est allé, assourdi par les clameurs de la foule, c'est pour prendre 42 secondes seulement à Jacques Anquetil. Il reste 14 secondes au classement général entre les deux hommes. Le duel n'est donc pas terminé. À mi-parcours, Anquetil possédait 12 secondes d'avance sur Poulidor. Mais ce dernier revenait à 3 secondes dans la côte des gardes. Il restait les 5 dernières minutes pour conclure. Et là, Jacques Anquetil avait le dernier mot. Il gagnait ce Tour de France avec 55 secondes d'avance sur Raymond Poulidor, compte tenu de la bonification. 55 secondes pour 4200 km de parcours.
Jacques Anquetil, c'était le maître dans le contre-la-montre. Et bon, je me suis incliné devant un super rouleur. Bon, ça me laisse pas de regret, non ?
Vas-y, Poupou ! Oui, Poulidor ! Allez, vas-y, Poupou !
J'ai arrêté mon dernier Tour de France en 76. Ça fait quelques années. Et tous les jours, on parle de Poulidor. Là, je vois des jeunes de 7-8 ans, leur grand-père leur parle de Poulidor.
Angers, on m'avait appelé sur le podium
pour enfin revêtir le maillot jaune. Tous les favoris étaient arrivés. Et puis il y a le champion d'Espagne du contre-la-montre qui est arrivé, un nommé Erandonea, qui m'a battu de 2-3 secondes. Et ce coureur a abandonné le lendemain. En réfléchissant aujourd'hui, évidemment j'aurais été content, mais non, c'est pas manque. C'est pas manque, au contraire, des fois je dis tiens, j'ai passé près du maillot jaune. Moi, on m'a dit, Poulidor, le malchanceux, c'est pas vrai. J'ai eu énormément de chance.
C'était Des Heures par Deluxe. Je vous signale que vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur la radio SPS.
Eh bien, comme chaque semaine, la rubrique personnages et on retrouve Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour, bonjour à tous.
Notre rubrique du dimanche, la femme, l'homme ou l'événement de la semaine, focus aujourd'hui sur Alexei Navalny, l'opposant russe qui a été empoisonné et qui est en soins intensifs dans un hôpital de Berlin.
Eh bien, rappelons tout d'abord les faits, ce qui s'est passé. Il y a 10 jours, Alexei Navalny, 44 ans, a dû être hospitalisé d'urgence dans un hôpital de Sibérie. L'avion qui le ramenait de Sibérie vers Moscou, l'avion à bord duquel il se trouvait, a dû atterrir d'urgence et il a été transporté à l'hôpital d'Omsk en Sibérie. Alexei Navalny, qui a été terrassé par des douleurs terribles, l'un des passagers du vol a filmé la scène où on le voit hurler de douleur. Alors très vite, son entourage a évoqué un empoisonnement dont il aurait été victime. Les médecins russes qui l'ont pris en charge ont semblé dans un premier temps corroborer cette piste d'empoisonnement, mais très vite ils ont changé leur version sous la pression sans doute des autorités russes, parlant d'une crise d'hypoglycémie. Car Alexei Navalny, on va le voir, n'est pas n'importe qui. Il fait figure de principal opposant au président russe Vladimir Poutine. Nous allons revenir tout à l'heure sur son parcours, sur sa personnalité. Mais avant cela, reprenons le fil des événements. À l'hôpital d'Omsk en Sibérie, son épouse n'a pas pu venir à son chevet. Aucun proche, idem pour son médecin. Personnel, tout a été verrouillé par les autorités et la police qui ont empêché que l'on puisse approcher Alexei Navalny. L'affaire, eh bien, elle a vite dépassé les frontières de la Russie. Emmanuel Macron, le président français, Angela Merkel, la chancelière allemande, se sont émus. La France et l'Allemagne qui ont proposé que Alexei Navalny soit transféré en France ou en Allemagne, qu'il soit accueilli dans un hôpital pour y être soigné. Finalement, après des tractations en haut lieu, il a été transféré il y a 8 jours via un avion médicalisé de cet hôpital de la Sibérie à Berlin, en Allemagne. Et depuis une semaine, eh bien, Alexei Navalny se trouve en soins intensifs. Il est plongé dans un coma artificiel. Ses jours ne seraient pas en danger, mais il a bel et bien été empoisonné. Les médecins de l'hôpital de la Charité de Berlin où il se trouve l'ont confirmé. La substance qu'il a ingurgitée à son insu, en prenant probablement un thé. Cette substance chimique n'a pas encore été formellement identifiée. En tout cas, il n'y a pas eu de communication. Mais elle appartiendrait à la famille des gaz neurotoxiques, comme le gaz sarin. Dans quel état sera Alexei Navalny s'il s'en sort, quand il va, espérons-le, se réveiller? Les médecins reconnaissent qu'il risque d'avoir des séquelles neurologiques très importantes. Cet empoisonnement nous renvoie à d'autres perpétués ces dernières années, ces dernières décennies en Russie, contre des opposants, des personnes politiques, des hommes d'affaires qui dérangent le régime. Alors, qui a commandité cet empoisonnement? On ne le saura probablement jamais, mais les proches d'Alexei Navalny sont formels. Pour eux, que l'ordre ait été donné directement ou indirectement du Kremlin, la main de Vladimir Poutine, le président russe, la main de son régime, plane au-dessus de cet empoisonnement.
Alors,
Qui est-il, Alexei Navalny? Quel est son parcours?
Bien, c'est un avocat de formation, Alexei Navalny. Il est né à Moscou en 1976. Il est diplômé en droit de l'Université russe de l'Amitié des Peuples. Il a étudié en 2009 à Yale, aux États-Unis, après avoir été recommandé notamment par le joueur d'échecs Garry Kasparov. Alexei Navalny, qui s'est progressivement fait connaître en Russie au tournant des années 2010, en tenant notamment un blog sur Internet où il dénonce, où il a pris l'habitude de dénoncer la corruption qui gangrène, selon lui, l'administration, les entreprises russes. Et cet activisme, eh bien, est vite devenu un activisme politique. Il s'est érigé au fil des ans comme le principal opposant hors système au président Vladimir Poutine. Il n'a pas hésité en 2011, par exemple, à qualifier le parti présidentiel Russie Unie de parti, je cite, des voleurs et des escrocs. Il a contesté les résultats des élections, les législatives de 2011, par exemple, ce qui lui a valu 15 jours d'emprisonnement. Alexei Navalny défend le libéralisme, mais également des thèses nationalistes, empruntant aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Fin 2011, il a réuni plus de 100 000 personnes lors d'une manifestation contre le régime. Il envisage une participation à un moment donné à la présidentielle de 2012, mais ne se présentera pas au final. Son activisme dérange néanmoins de plus en plus. En 2013, il est condamné à 5 ans de prison avec sursis. 5 ans de camp, accusé de détournement de fonds d'une société forestière. Et cette condamnation, eh bien, ses proches, mais aussi l'Union européenne et les États-Unis, la qualifient de condamnation politique. Alexei Navalny brigue la mairie de Moscou en 2013. Il est battu, mais il dénonce là aussi des résultats tronqués. En tout cas, ce scrutin, les municipales à Moscou, lui a permis de se faire connaître auprès du grand public. Il continue de tracer son sillon. Il veut se présenter à la présidentielle de 2018 contre Vladimir Poutine. Sa candidature sera rejetée officiellement en raison de cette condamnation dont nous parlions en 2013 à 5 ans de prison avec sursis. Il a appelé au boycott de ce scrutin présidentiel. Il multiplie les actions, les manifestations contre le régime. Il est difficile de savoir exactement ce que représente Alexei Navalny dans l'opinion publique. Il y a bien des sondages qui ne le créditent que de quelques pourcents, mais il faut savoir que tous les médias sont noyautés par le pouvoir en Russie et toute personne qui relate ses idées ou qui fait mention d'Alexei Navalny, eh bien, s'expose à de sérieux ennuis. Difficile donc de savoir si les Russes seraient véritablement prêts à lui faire confiance en cas d'élection. Ses détracteurs le font passer pour un nationaliste et pointent ses accointances présumées avec l'extrême droite. Il est taxé régulièrement également d'être un agent à la solde des Américains. Une chose est sûre, Alexei Navalny dérange, nous l'avons dit, et il a été sciemment empoisonné.
Et c'était le portrait d'Alexei Navalny. Temps de passer maintenant à la littérature, revue d'un livre, le livre de la semaine, La fille du train.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On va détailler un livre avec Jacques du Forum. Bonjour Jacques.
Et bonjour Christophe, bonjour à tous.
Présenter La fille du train, c'est écrit par Paula Hawkins. C'est une auteure anglophone mais qui a été traduite. Donc le livre s'appelle, je viens de le dire, La fille du train.
Paula Hawkins, elle est née et a grandi à Harare, au Zimbabwe. Son père était un professeur d'économie et journaliste pour la finance. Sa famille déménage à Londres en 1989, alors qu'elle a 17 ans. Elle va étudier ensuite la philosophie, la politique, et l'économie à l'université d'Oxford. Puis, elle écrit des articles sur les affaires pour The Times, et en même temps, elle écrit plusieurs articles en indépendant. Tel père, telle fille, elle publie un livre de conseils financiers pour les femmes, The Money Goddess, la déesse de l'argent. Vers 2009, Hawkins commence sa carrière romancière en écrivant des fictions romantiques sous le pseudonyme d'Amy Silver. Elle rencontre le succès commercial avec son roman « La fille du train », « The Girl on the Train », qui est publié en 2015. C'est un thriller qui aborde la violence domestique et l'alcoolisme féminin. Il a été un phénomène en librairie et s'est vendu à 11 millions d'exemplaires à travers le monde. Il a été adapté pour le cinéma par Tate Taylor avec Emily Blunt dans le rôle principal. Il sort le 26 octobre. Ce que je vais vous dire va vous faire sourire, Christophe, car alors que l'histoire dans le livre se passe à Londres, dans le film, on est à New York.
Je vais même pas sourire parce que les Américains, quand ils font des choses comme ça, c'est même plutôt énervant qu'autre chose. On se rappelle de plusieurs films français qui, du coup, ont été comme ça. Ce livre, c'est un polar, on peut dire ?
Oui, c'est un polar psychologique. Écoutez bien l'histoire. Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller et revenir de Londres. Chaque jour, elle est assise à la même place et chaque jour, elle observe une jolie maison. Rachel a 32 ans. Elle vit chez l'une de ses amies depuis qu'elle a divorcé de Tom, l'amour de sa vie. Lorsqu'elle apprend qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, l'héroïne se tourne vers l'alcool. Il n'y a pas un jour où elle ne boit pas. Là, de voir son épouse ivre morte, Tom prend une maîtresse et finit par la quitter pour habiter avec sa nouvelle compagne dans leur ancienne maison. Pour Rachel, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle s'alcoolise de plus en plus pour oublier et devient dépressive. Dans la foulée, elle perd son travail et décide de mentir à son entourage pour éviter qu'il ne s'inquiète. Elle continue de prendre le train pour se rendre au boulot et passe ses journées à rêvasser dans les rues de Londres. Ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est s'imaginer la vie des habitants des maisons devant lesquelles elle passe lorsqu'elle est assise confortablement dans son siège. Chaque jour, elle revoit les mêmes personnes, les mêmes demeures. Cette maison, elle la connaît par cœur. Elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle aperçoit derrière la vitre, Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Mais un matin, elle découvre un autre homme que Jason à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son mari ? Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de Jess à la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a mystérieusement disparu.
Donc, nous n'en dites pas plus, parce que pour découvrir la suite, je pense que nos auditeurs vont devoir lire le livre, ou peut-être voir le film, mais bon, plutôt lire le livre quand même. Est-ce qu'il y a une recette de ce succès ?
Les raisons sont multiples, en fait. Tout au long de l'histoire, on pense savoir ce qui se passe, connaître le coupable. Eh bien, finalement, non, on est bien loin de la vérité. Tout est une question de mise en scène, de manipulation et de mensonge. Deuxième raison, Rachel n'est pas la seule narratrice du roman. Elle est secondée par Anna, la maîtresse de son mari, et Megan, la victime. Chacune offre au lecteur un angle de vision différent. Elle nous apporte un complément d'information et comme l'héroïne, on mène l'enquête. Troisième raison, avec la fille du train, Paula Hawkins prend le parti de la dénonciation. Elle met en lumière les violences conjugales par l'intermédiaire de ses personnages, mais aussi l'alcoolisme féminin au travers de Rachel. Aucun sujet n'est tabou avec l'écrivaine britannique. Elle nous fait prendre conscience des choses et des problèmes de la société, sans nous choquer à aucun moment. Nous la suivons dans son récit, les yeux fermés. Enfin, La fille du train a été traduite dans plus de 42 langues et a occupé dès sa parution le haut du classement des meilleures ventes de livres au Canada, aux États-Unis et même en Australie. Au Royaume-Uni, le thriller s'est maintenu à la première place du palmarès pendant plus de 20 semaines consécutives, ce qui est un record. Face aux nombreuses critiques positives et au succès grandissant de son roman,
et c'est un livre en tout cas à ne pas rater. Le livre s'appelle La fille du train, c'est donc de Paula Hawkins. Merci Jacques.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Et après donc cette revue de La fille du train, bien on reste dans la littérature car cette semaine c'est la rentrée littéraire en France. Et bien Sarah Tisser de RFI nous présente les nouveautés de cette rentrée littéraire 2020.
Le Camille Laurence, le Serge Joncourt, Alice Fernet, Nothomb, tout ça c'est nouveau et c'est que le début.
Tout est prêt pour accueillir les lecteurs à la librairie Lamartine dans le 16e à Paris. 92 des quelques 500 nouveaux romans de la rentrée sont arrivés en une journée la semaine dernière. Parmi eux, beaucoup de grands noms cette année. Stanislas Rigaud, le directeur de l'établissement.
On est sur une entrée terrain où déjà l'équipe de librairie a beaucoup de coups de cœur. Tout ça est appuyé par des gros titres, à commencer par le Emmanuel Carrère, qui est un événement normalement sur la ligne de départ, c'est ce qui fait les grandes rentrées littéraires.
Ouais, très belle écriture et ça sonne juste.
Ça sonne juste tout de suite.
Et donc demain David vient et nous amène les bandeaux.
Reste l'inconnu Covid. Les lecteurs vont-ils continuer en cette rentrée à fréquenter les librairies comme ils l'ont fait avec avidité à partir du 11 mai, après 2 mois d'enfermement?
Il y avait beaucoup de clients et qui arrivaient et qui prenaient beaucoup de livres. Donc c'était une très très bonne surprise. Énorme succès en littérature, énorme succès en jeunesse. On a retrouvé nos clients de manière extrêmement chaleureuse. Donc forcément, ça a été une formidable surprise, mais on a trouvé de nouveaux clients. Et j'ai beaucoup de confrères qui m'ont dit la même chose. Depuis la réouverture, on a beaucoup de gens qui viennent qui ne sont pas des gens qui venaient d'habitude. Soit ils n'achetaient pas de livres, soit ils commandaient sur Internet. Et cette crise a mis en lumière ce système qui est que on a la chance en France d'avoir de formidables libraires, d'en avoir beaucoup. Donc vous voulez commander sur Internet, pourquoi? Pour avoir un livre une journée plus vite que votre libraire qui est en bas de chez vous, qui l'a peut-être d'ailleurs même en stock. Bon, voilà. Et le souffle n'est pas retombé. On s'est dit, première semaine ça va retomber, deuxième semaine ça va retomber, troisième... Et non, là, ça a tenu mai, ça a tenu juin, ça a tenu juillet. Un arrêt logique en août, aujourd'hui on attend.
Globalement, entre mi-mai et mi-juillet, les ventes en librairie ont augmenté de 20% par rapport à l'an dernier. Un rebond inespéré et salutaire, même s'il ne permettra pas d'absorber complètement le choc des 2 mois de confinement. Pierre Dutilleul, directeur général du syndicat national de l'édition.
On a eu peur à un moment donné d'avoir une décroissance, une perte de chiffre d'affaires entre 30 et 40% sur l'année globale. Je pense qu'on sera plutôt entre 10 et 15%. On va s'en sortir négativement, mais pas de manière vitale. Merci les lecteurs.
Les lecteurs qui font aujourd'hui que le monde du livre s'en sort mieux que le cinéma ou le spectacle vivant.
Et à présent, un rappel des grands titres de l'actualité. 114 nouveaux cas de Covid recensés au Victoria et toujours pas de nouvelles sur l'allègement éventuel des mesures de sécurité sanitaire. Et le Norvégien Alexander Kristoff remporte la première étape du Tour de France 2020 alors que le Belge Philippe Gilbert est lui contraint à l'abandon pour cause de blessure. Et une manifestation monstre à Maurice pour protester contre la gestion d'une catastrophe écologique.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.